Des matins de France Culture jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Le Brexit est véritablement un feuilleton difficile à suivre. Hier, les Tories ont apporté leur soutien par 200 voix contre 117 à la première ministre britannique Theresa May lors d'un vote interne organisé par des députés hostiles à l'accord conclu avec Bruxelles. Bonjour Vivien Pertuzot, vous êtes chercheur associé à l'IFRI. Où en sommes-nous et où en est l'Angleterre dans cet accord possible, probable ou improbable au sujet du Brexit?
Alors peut-être que le plus simple, c'est de partir, de faire un peu du rétro-planning, presque, et de se dire...
Du rétro-calendrier,
partons de la date de sortie effective du Royaume-Uni de l'Union Européenne, qui est le 29 mars. Si on prend cette date-là, on doit se dire que d'ici là, un accord doit être ratifié. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a toujours un accord qui est sur la table, qui a été signé entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni à la fin du mois de novembre. C'est cet accord-là qui doit être ratifié. Et c'est cet accord-là qui est le vote sur cet accord-là qui a été reporté la semaine dernière par Theresa May, et ça a provoqué le vote dont vous avez parlé hier sur justement le maintien ou non de Theresa May comme première ministre du Royaume-Uni. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a toujours un accord qui a été signé entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Cet accord existe, il faut le ratifier. La situation est la suivante, il n'y a pas de majorité au sein du Parlement britannique pour cet accord en l'état.
Qui est mécontent de cet accord et pourquoi, Vivien Pertuzot?
Alors, aujourd'hui, on a une pluralité d'acteurs
qui sont mécontents.
Alors, on va commencer par les plus vindicatifs.
Voilà. Hein,
les plus vindicatifs. Et donc là, ce sont principalement des conservateurs qui ont un vrai problème avec la situation dans laquelle pourrait se retrouver l'Irlande du Nord dans le cas d'une sortie du Royaume-Uni avec l'accord.
Parce que de fait, elle va prendre du large.
Bah c'est un peu ça en fait. On se retrouve dans une situation où l'Irlande du Nord pourrait être à l'intérieur du marché intérieur de l'Union Européenne, tandis que le reste du Royaume-Uni ne le serait pas. Et c'est quelque chose que les conservateurs ne souhaitent pas. Ainsi que un tout petit parti qui permet la majorité pour Theresa May au Parlement et qui est également contre ça.
Mais alors si j'ai bien suivi la question d'Irlande du Nord qui est extrêmement complexe, dans cette question, il n'y a pas seulement la fantaisie de Theresa May, il y a aussi une sorte de quadrature du cercle à résoudre.
Ah, c'est sûr que là on est dans une situation où pour l'Irlande du Nord, un accord a été trouvé, mais on a ce qu'on appelle en anglais le backstop qui pourrait se mettre en place si suite, en fait il y a une période de transition qui va arriver donc après le 29 mars, il va y avoir une période de 20 mois de négociations sur l'avenir des relations entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Et donc là, tout doit se jouer encore à ce niveau-là dans la situation de l'Irlande du Nord qui pourrait ou pas faire partie du marché intérieur ou de l'union douanière. Enfin, il y a encore des choses à négocier et cette zone d'ombre ne plaît pas aux conservateurs.
On comprend bien que l'intégrité donc de l'ensemble du territoire soit important pour eux. Y a-t-il d'autres motifs de mécontentement, Vivien Pertuzot, vous qui êtes chercheur à l'IFRI?
Alors, il y en a d'autres. Alors là, ce sera plus pour ceux qui ne veulent pas d'un Brexit. Évidemment, on a quand même une partie de l'opposition politique au Royaume-Uni, donc notamment les travaillistes, mais également les libéraux-démocrates et les Écossais, le parti nationaliste écossais, qui ne souhaitent pas un Brexit. Et c'est vrai que ils ont une lueur d'espoir qui est arrivée lundi, puisque la Cour de justice européenne a confirmé que un pays pouvait unilatéralement décider de retirer sa candidature de sortie, si je puis dire.
Mais alors justement, parce que donc nous sommes en décembre, cet accord il devrait intervenir le 29 mars, la sortie devrait être effective pour le Royaume-Uni, est-ce véritablement tenable?
Alors c'est vrai que
plus le temps avance, plus il est tard.
Voilà, exactement. Donc c'est vrai que le risque aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve le 29 mars sans une ratification de l'accord. Et dans ce cas de figure-là, à ce moment-là, il n'y a plus d'accord.
Mais est-ce un risque ou aujourd'hui une quasi-certitude ? On ne voit pas du tout comment le calendrier peut suivre avec toutes les décisions qu'il va falloir prendre.
Alors, ça reste un risque. Ça reste un risque à deux niveaux. Le premier, c'est qu'on ne sait jamais. Hein, en politique, tout peut aller très vite. Si tous les acteurs ont envie que ça aille très vite, ça peut aller très vite. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui n'est pas négligeable et qu'on oublie assez souvent, c'est que le Conseil européen, donc tous les États membres de l'Union européenne, peuvent unanimement décider d'étendre la période de négociation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que la période dure 2 ans, donc ce serait le 29 mars 2019. Mais s'ils estiment que il vaut mieux étendre cette période de négociation, ils peuvent le faire unanimement, et donc on pourrait repartir pour 6, 9, 12 mois, par exemple, afin de trouver afin de permettre une ratification de cet accord.
Alors, pour que les choses soient claires, est-ce qu'il peut y avoir un Brexit sans accord ?
C'est tout à fait possible. C'est une réelle possibilité. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne que tout ce qui existe aujourd'hui, tous les accords, littéralement tout ce qui régit la vie entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, n'existe plus du jour au lendemain. Donc, si je prends un exemple...
Je vois mal qu'est-ce que ça pourrait donner.
Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Ça pourrait donner que, quasi du jour au lendemain, on vous demandera un visa pour aller au Royaume-Uni, ou inversement, on demandera aux Britanniques qui rentrent sur le territoire européen un visa.
Et pour ceux qui habitent en France, par exemple ?
Alors justement, une proposition de loi...
Parce qu'eux, ils sont affolés.
Tout à fait, il y a une proposition de loi en France qui a été qui est en gestation depuis le mois d'octobre et qui prépare ce scénario-là. Et ce scénario-là n'est pas forcément très reluisant, parce qu'en fait, la situation est la suivante. Si les Britanniques décident de ne rien faire pour les citoyens européens qui sont sur le territoire britannique, le gouvernement français a dit, nous on n'en fera pas beaucoup plus pour les Britanniques. Et inversement, si on peut trouver un accord, dans ce cas de figure-là, on peut trouver des moyens pour les Britanniques de rester sur le territoire français.
Le magazine britannique The Economist appelait ce week-end à revoter sur le Brexit. Si d'aventure cette éventualité se concrétisait, le Brexit l'emporterait-il à nouveau, Vivien Pertuso ?
Alors là, vraiment rien n'est moins sûr. Il n'y a pas eu d'indication dans les sondages qu'il y avait eu un changement radical de ceux qui avaient voté pour le Brexit en 2016. Il est possible qu'on soit toujours dans du 52-48, parce que je rappelle quand même qu'il y avait 52% des Britanniques qui avaient voté pour le Brexit. On serait probablement dans une fourchette assez similaire. Est-ce que ce serait pour un maintien ou pour un Brexit ?
Rien. Donc en fait, il n'y a pas de raz-de-marée dans l'opinion ?
Non.
Merci beaucoup, Vivien Pertuso, d'avoir essayé de nous éclairer sur, effectivement, ce feuilleton difficile. Je rappelle que vous êtes notamment l'auteur d'un article « Perspectives brouillées pour le Brexit ». C'est dans la revue Ramsès 2018, publié par l'IFRI. Il est 7h21 sur France Culture.